Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 110, Agriculture, la question de l'eau, partie 1, avec notre invitée Marine Carasset de Biocentre. C'est parti! Salut Nico.
Salut Gaël.
T'as l'air en forme.
Ah ouais.
Ah écoute, c'est génial de pouvoir entendre le thème musical comme ça. Alors Nico, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Marine Carasset. Bonjour Marine.
Bonjour.
Marine, t'es conseillère territoire à Biocentre.
Encore.
Encore. Et on a déjà fait un épisode autour des manifs des agriculteurs. Ouais. Et puis des revendications. Et là on va parler un petit peu d'eau. Parce que il y a un truc qui m'interroge, hein, c'est que Nico, t'as parlé de comme quoi il fallait diluer l'eau, c'est ça, sur un point de captage à Averdon. J'ai bien compris ?
T'as bien compris, ouais. Ouais. Ouais.
Alors racontez un peu moi ça, ça me paraît bizarre.
Bah je vais laisser Marine un peu, parce que c'est quand même son sujet, la question de la gestion de l'eau dans l'agriculture, à la fois la gestion quantitative des prélèvements dans les nappes ou autres, et puis aussi un peu qualitative, toutes ces questions de comment on améliore la qualité de l'eau. Est-ce que ce qu'on a de spécifique dans cette zone-là d'Averdon, c'est qu'on est aussi sur les nappes de Beauce, qui sont gérées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, à une échelle locale, donc on dit DAGE, parce qu'on aime bien les acronymes ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se gère, les eaux de la nappe dans ce secteur de la Beauce, entre les agriculteurs, un peu la gouvernance et les enjeux que tu y vois?
Oui, alors là on a deux sujets.
Oui, il y a beaucoup. Les captages
sujets,
ouais.
Alors le premier sujet, c'est l'aspect qualitatif. C'est Gaël qui a posé la question. Donc sur l'aspect qualitatif, effectivement, l'eau... Enfin, il y a différentes professions et filières qui ont un impact sur la qualité de l'eau, la question des pollutions. Donc, pour avoir de l'eau potable, Gaël, on mesure les pollutions qui sont présentes dans ce qu'on appelle ces aires d'alimentation de captage, donc qui sont des gros forages qui permettent d'amener l'eau jusqu'à ton robinet.
Okay. Et donc pour vous donner une idée des mesures effectuées dans les fameux captages en eau potable d'Aglopolis dont vient de nous parler Marine, on a donc parlé du dépassement de seuil nitrate à Averdon dans l'épisode précédent, qui oblige à intervenir en diluant l'eau. Et en ce qui concerne les pesticides, on a aussi un dépassement des seuils de pesticides autorisés dans l'eau brute. L'eau brute, c'est l'eau avant nos traitements par filtre pour enlever ces pollutions, dans 8 captages sur 16. Par exemple, on va avoir des taux élevés de fongicides, en l'occurrence le chlorothalonil, sur cet captage. On peut avoir aussi des taux très élevés de AMPA. AMPA, c'est les produits de dégradation, entre autres, du glyphosate, qui est un désherbant très probablement cancérigène, à des taux supérieurs aux normes jusque dans la Loire, quand on capte dans la Loire pour l'eau de Blois. Et donc on a 8 captages sur 16 comme ça qui ont des taux de divers pesticides qui sont supérieurs aux normes, sachant qu'on a déjà dû fermer des captages trop pollués par le PC, qu'il nous faudra encore fermer celui de Courcheverny-Fourmilière pour les mêmes raisons, et qu'on peut difficilement aujourd'hui se permettre de fermer plus de captages si on veut continuer de produire suffisamment d'eau potable en termes quantitatifs.
Et donc les services de l'État et les agences de l'eau sur notre région, c'est Loire-Bretagne principalement, vérifie les seuils de potabilité et donc la présence ou non des polluants, notamment agricoles. Quand les seuils sont dépassés, que ce soit pour cause des présences de nitrates, soit les pesticides, notamment les herbicides principalement utilisés en agriculture conventionnelle.
Les nitrates, tu peux nous dire rapidement ce que c'est, à quoi ça correspond par rapport au...
Ouais, les nitrates, ça sert à faire pousser les plantes.
C'est plutôt un engrais, alors.
C'est plutôt un engrais, ça booste en fait la croissance des plantes. Clairement, les plantes sans nitrates ne peuvent pas se développer de façon optimale. Donc on en met en agriculture pour pouvoir atteindre des rendements et des quantités intéressantes.
Voilà, c'est juste ça.
Juste ça, voilà. En agriculture conventionnelle, on utilise du nitrate, donc c'est plutôt du minéral, qui est produit avec beaucoup de pétrole, Par contre, en agriculture biologique, on utilise de l'azote organique, plutôt naturel, notamment les fientes de poules, par exemple, du compost, voilà, contenu dans le compost. Donc l'organique se dégrade petit à petit. La plante puise au fur et à mesure des saisons ses besoins. Le nitrate, par contre, quand on en épand dans les champs, il est directement disponible, passe dans le sol, directement disponible pour la plante. Et par contre, s'il pleut, il est lessivé et donc il passe dans les nappes. Et donc, c'est pour ça que ça pollue l'eau. Voilà. Donc, les services de l'État et les agences de l'eau vérifient les seuils de potabilité. Quand les seuils sont dépassés, on dit qu'il y a une pollution diffuse, notamment agricole. Et à ce moment-là, on décide de mettre en place des plans d'action pour pouvoir limiter ces pollutions. Et donc, il y a des plans d'action, ce qu'on va appeler curatif, entre guillemets, et c'est ce dont a parlé Nicolas. Donc là, on va diluer l'eau avec une eau qui est moins polluée, et du coup, les seuils vont diminuer. On pourra la passer dans le... Ou alors, on met des filtres, et on filtre l'eau, et on capte les polluants. Donc ça, c'est des investissements.
Des deux, en réalité. Voilà. On met des filtres, mais comme ça ne suffit pas, on dilue l'eau.
Et ça, c'est des investissements très importants pour la collectivité que vous allez pouvoir retrouver sur votre note d'eau. Et c'est pour ça que le prix de l'eau augmente au fur et à mesure. Voilà, donc c'est des impôts indirects, en fait.
L'eau, c'est vraiment très particulier en termes de financement public parce qu'on a un principe qui est unique en Europe, en France, c'est que l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que tu as, sur ta facture d'eau, tu as une partie qui paye la production d'eau potable et tu ne peux pas dépenser en investissement plus que ce que tu récoltes par l'impôt. Par la taxe sur l'eau.
Et attends, j'ai...
En fait, sur ta facture de consommation d'eau, quand tu payes ta facture de consommation d'eau, il y a une grande partie du prix qui sert à pouvoir produire de l'eau potable. Et c'est cette manne financière qui est reversée à l'agence de l'eau et aux EPCI pour pouvoir financer les politiques de préservation de l'eau et de production d'eau potable. Et donc, tu ne peux pas dépenser plus que l'entrée financière que tu as par les factures d'eau qui sont versées par les citoyens. Donc par exemple, là dernièrement, on a eu plutôt une baisse de la consommation d'eau par les citoyens, donc on a une baisse de l'investissement possible pour produire de l'eau potable. Mais en même temps, c'est une bonne chose aussi qu'on baisse nos usages de l'eau. C'est compliqué, ça se tire un peu, c'est le serpent qui se mord la queue.
Voilà. Et dans l'autre possibilité, en action préventive, c'est plutôt les changements de système agricole qui permettent du coup de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais minéraux par les agriculteurs et donc de moins polluer. Et donc Biocentre, on travaille là-dessus en fait.
Ouais, j'allais te demander, voilà. Raconte-nous ce que tu fais à Biocentre.
Ouais, et ben on accompagne les collectivités qui sont justement en charge ou en responsabilité de la distribution de l'eau potable pour mettre en place un dialogue avec les agriculteurs et les amener au changement de pratique. Donc ces changements de pratique, ils peuvent aller jusqu'à la conversion, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la conversion bio. Tout le monde n'est pas obligé de passer en bio. On peut aussi faire des systèmes où on intègre des techniques bio qui permettent de diminuer l'utilisation de ces produits. Ça va être le désherbage mécanique, par exemple, pour en mettre moins d'herbicides. Ça va être plus de rotation dans les systèmes. Donc en Beauce, notamment, on est sur un système blé, orge, colza, principalement, où on intègre de temps en temps un peu de maïs, voilà. Mais si on allonge la rotation des cultures, à ce moment-là, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des engrais verts qui permettent d'amener de l'azote organique dans les sols et de capter l'azote minéral au moment notamment de l'hiver, où il y a le plus de pluie et donc le plus de lessivage.
Les engrais verts, c'est des plantes, hein, c'est ce qu'on appelle les légumineuses, la luzerne... Ouais. Ou autres, des pois, et en fait, dans leur au niveau de leurs racines, ils ont ce qu'on appelle des nodosités, c'est une petite symbiose avec un champignon, une bactérie, je ne sais plus, qui va capter l'azote du sol et donc produire, participer
Ça va capter les nitrates et relarguer en azote organique.
Voilà, capter des nitrates et produire de l'azote. Et donc c'est assez intéressant ces plantes-là parce qu'après tu les enfouis et ça enrichit et ça améliore ton sol. Et en plus ils décompactent le sol souvent, donc ça a un double intérêt.
Ils décompactent, t'as dit.
Pardon, c'est bon.
Ouais, mais peut-être qu'on sait.
Qui revient. Non mais c'est des plantes en plus qui ont des racines assez profondes souvent, donc ils participent à décompacter les sols.
D'accord.
Pardon, je t'ai
voilà.
coupé.
C'est, non, mais
comme
voilà.
tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un engrais vert.
Oui, c'est bien. Donc Biocentre accompagne au changement de pratique et à la mise en place des plans d'action préventives pour pouvoir améliorer la qualité de l'eau. Donc mon travail, c'est ça.
Okay. Ouais. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les syndicats de bassin, c'est-à-dire les gens qui gèrent les rivières, il y a une obligation d'aller vers des plans de lutte contre les pollutions diffuses. Comme ça devient un vrai sujet, que toutes nos rivières ont des mauvaises qualités d'eau. Donc, en ce moment, on est en train de lancer un travail sur comment on paye les, comment on facilite le changement de pratique, parce que très souvent, une remarque qui nous est faite, c'est oui, mais tout ça, ça demande plus de temps, plus de travail, plus de complexité pour finalement le même coût, prix de vente de mon produit. Et donc, ce n'est pas rentable. Donc, et puis, aujourd'hui, on a eu une problématique sur la filière bio qui avait du mal aussi à acheter suffisamment de produits bio par rapport à la production. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler, Samarie ?
Bah, en fait, effectivement, jusqu'à l'année dernière, il y a 2 ans, en fait, la croissance de la filière bio était... je dirais pas exponentielle, mais à 2 chiffres tous les ans, avec une consommation aussi importante, une évolution positive de la consommation. Là, depuis 2022, on est plutôt sur une stagnation, voire une régression, et notamment parce qu'on a des prix du bio qui sont moins valorisants que les prix du conventionnel. Donc le blé conventionnel est acheté plus cher aux agriculteurs que le blé bio. Ce qui fait que l'intérêt économique, il est beaucoup moins il est moins là en fait, il est moins présent, et donc ça freine vraiment les conversions.
Et qu'est-ce qui explique ça ? Parce que c'est quand même complètement dingue de se dire que le blé conventionnel, on va l'acheter plus cher que le blé bio.
Ben c'est, je pense que c'est un mélange de choses. Il y a ce principe-là où on dit que la consommation baisse parce que le pouvoir d'achat des ménages baisse. Et c'est vrai, hein, les gens ont tendance à sacrifier un peu la qualité de leurs produits d'achat en alimentation. Donc ils se retournent vers des produits qui sont moins chers. Donc là, on peut avoir tout un débat sur est-ce que c'est vraiment l'alimentation qu'il faut sacrifier, mais voilà, c'est pas le sujet du jour. Et après, est-ce que moins de consommation fait qu'il y a moins de filières, moins de présence en rayon, moins de présence, et c'est le cercle dont tu parlais dans l'épisode précédent, moins de consommation, moins de présence en rayon, moins de présence en rayon, moins de consommation, etc., etc., etc.
Et après, ça peut être aussi des choix faits. Hein, chez Claude Gruffa, qui est déjà venu ici, nous expliquer qu'il y avait un certain nombre d'enseignes qui enlevaient les rayons bio ou la présence de bio dans les magasins.
Et qui les remélangent dans les autres rayons.
Plus vite que ne baisse la consommation de bio. Donc, c'est aussi des choix politiques parfois qui sont faits.
Et puis après, au-delà de la baisse de la consommation, il y a aussi le contexte politique mondial. Hein, on sait
l'Ukraine. On importe le blé d'Ukraine pour pas cher. Donc ça crée une...
Voilà, on importait le blé d'Ukraine pour pas cher. Là, le blé d'Ukraine étant moins disponible, à ce moment-là, les filières se reportent sur d'autres producteurs. Donc au niveau mondial, autant de demandes, moins de production. Les prix qui flambent.
Les amis, je vois qu'on parle, on parle. Là, on arrive au bout du timing. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 épisodes là-dessus, si vous voulez bien. D'accord ?
Bien, on a l'habitude.
Marche. Allez. Merci beaucoup.
À tout de suite.
Ouais. À la prochaine.
À tout de suite.
Salut Nico.
Salut Gaël.
On peut écouter les épisodes sur les applis de podcast. Et il y a plus de 100 épisodes. Vous pouvez l'écouter sur Studio Zef 91.1.
Dans l'émission La Lorgnette. Retourne-moi et Clémentine. Et aussi écouter les épisodes sur Blois Capital. Merci à tous ceux qui nous écoutent.
Merci à Clément et à Jules. Et si vous êtes sur Studio Zef tout de suite, c'est les Roxettes. We'll be right back.